Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. Good morning. Good morning. RMC, 5h-6h30, Charles Matin,
Charles Magnin.
Bonjour à tous, bon réveil, bienvenue sur RMC, bonjour Estelle Gasse.
Bonjour Charles.
Estelle, ma première question ce matin, quelle température, quel temps ce soir, 21h du côté du Parc des Princes?
Eh bien normalement il fera beau, il y aura peut-être un joli coucher de soleil même
sur le stade. Ça va être magnifique alors.
Voilà, il faudra juste prévoir un petit gilet, une petite veste parce qu'il fera plutôt frais.
Voilà, je me couvre un peu, mais ouais. Pas besoin de caouet, de
non, capuche, il ne pleuvra pas, normalement.
Voilà, parfait. Oui, parce que vous l'avez compris, nous sommes le mercredi 10 avril, une date que les supporters parisiens ont coché depuis longtemps dans leur agenda. C'est une soirée très spéciale que vous allez vivre dès 18h au Parc des Princes ce soir sur RMC PSG Barcelone. C'est le quart de finale aller de la Ligue des Champions, l'affiche qu'on attend depuis des semaines, soirée spéciale. Il y aura la libre antenne jusqu'à 1h30 ce soir sur RMC. Un très beau match au Parc des Princes et on va commencer cette journée. Tiens, avec le prono d'Estelle Gasse. Oui.
Allez, je vais dire un petit 3, hein, mais moi je vous sens déjà bien stressé, Charles, pour ce soir.
Ouais, une confiance très relative, mais non, ça va le faire. Ça va le faire. Voilà, ça va être.
On y croit.
Moi j'y crois. Je ne sais pas si tout le monde y croit. Et puis c'est toujours ma question au 32-16 quand il y a un grand match de Coupe d'Europe comme ça avec le PSG. Est-ce que toute la France est derrière le PSG ce soir? Venez nous le dire ce matin au 32-16, supporters parisiens ou pas. Ce soir, votre prono pour PSG Barcelone. N'hésitez pas, on va en parler tous ensemble ce matin au 32-16. Bah oui, c'est jour de match sur RMC, c'est forcément une journée un peu particulière. Et puis il y a tout le reste de l'actu, évidemment. Vous aurez toute l'info ce matin sur RMC, dans Charles Matin, dans Apolline Matin. Vous avez choisi le meilleur réveil de France. Plusieurs débats avec vous, et en particulier cette question sur laquelle on vous attend au 32-16, un débat du jour. Attention, sujet tabou, sujet explosif ce matin.
Et oui, Charles, faut-il en finir avec l'emploi à vie des fonctionnaires?
Ah, je vous avais prévenu, hein, sujet très très sensible. C'est le ministre de la fonction publique qui veut justement lever ce totem de l'immunité des fonctionnaires.
L'idée de Stanislas Guérini, c'est de pouvoir sanctionner les agents qui ne font pas leur travail. On le rappelle, hein, le licenciement des fonctionnaires est une exception seulement possible en cas d'insuffisance professionnelle.
Ouais, il y a eu seulement 13 licenciements dans la fonction publique en 2022, dit Stanislas Guérini, contre 1 million dans le secteur privé. C'est quasi impossible de licencier un fonctionnaire qui ne fait pas ou qui fait mal son travail, dit le ministre, qui voudrait donc lever ce tabou. Est-ce que c'est la bonne solution, le ministre? Qui dit de l'autre côté, on rémunérerait mieux au mérite, par exemple, les fonctionnaires, on boosterait les carrières, on simplifierait l'évolution pour les fonctionnaires dans leur carrière, mais de l'autre côté, il faudrait pouvoir plus les sanctionner, voire les licencier. Alors, est-ce que c'est la bonne méthode? Est-ce qu'il faut mettre fin à l'emploi à vie des fonctionnaires, favoriser les licenciements? C'est vous qui allez nous le dire ce matin au 32-16. Vous êtes fonctionnaire, vous avez été fonctionnaire. Vous allez entendre, hein, sur RMC ce matin, des fonctionnaires qui ne sont pas contre l'idée, qui disent que oui, il faut faire bouger les choses, il faut faire bouger les lignes au sein de la fonction publique. N'hésitez pas, on vous attend au 32-16 pour vos témoignages. Il y a aussi Direct Studio, évidemment, pour tous vos messages en direct. Excellent réveil à tous, vous êtes bien sur RMC, il est 5h.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct le matin, c'est sur RMC et c'est votre journal présenté par Thomas Schnell. Bonjour Thomas.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Le groupe État islamique menace publiquement les quarts de finale de Ligue des Champions. Le ministre de l'Intérieur promet des mesures de sécurité considérablement renforcées pour le match PSG-Barça au Parc des Princes, soirée exceptionnelle à vivre sur RMC. Faut-il ouvrir la voie au licenciement de fonctionnaires? C'est le souhait du ministre au nom de l'efficacité de la fonction publique. Et puis le coup d'envoi de la grande réforme sociétale sur l'aide à mourir avec la présentation ce mercredi du projet de loi sur la fin de vie en Conseil des ministres.
Le groupe État islamique menace les quarts de finale de la Ligue des Champions.
Paris, Londres et Madrid ont immédiatement réagi en renforçant considérablement la sécurité autour des stades. Signe de l'ampleur de la menace islamiste, les terroristes visent directement les rencontres européennes dans un message relayé par des sites pro-Daesh. Caroline Philippe.
Kills them all, tuez-les tous. Sur les images, un slogan et un combattant de l'État islamique armé d'un fusil d'assaut. Il pose devant des photos des quatre stades qui accueillent les quarts de finale aller. Une communication inédite inédite, décrypte Jérôme Poirot, ancien adjoint à la Coordination nationale du renseignement.
C'est effectivement la première fois qu'un groupe terroriste menace avant d'éventuels attentats. D'habitude, ils revendiquent après. Ça montre bien une volonté nouvelle, à la fois de mener une action de guerre psychologique, et c'est aussi une manière pour l'État islamique de montrer sa puissance.
D'autant que le monde entier suit ses matchs. Le renforcement de la sécurité vise à éviter une action d'envergure d'un commando, par exemple. Mais ce n'est pas la seule hypothèse à craindre, alerte Driss Aït Youssef, spécialiste des questions de sécurité.
Cette menace, elle peut être saisie par un individu qui serait un individu isolé et qui, muni d'un couteau, pourrait commettre effectivement un attentat lors effectivement de cette manifestation sportive.
Ces posts incitatifs viennent de la branche de l'État islamique en Afghanistan, soupçonné d'être derrière l'attentat de Moscou qui a fait 144 morts il y a plus de deux semaines.
Malgré la menace, aucun pays visé n'a demandé le report des rencontres. Hier, match nul 3 partout entre le Real Madrid et Manchester City. Ce soir, c'est le grand soir pour le PSG qui reçoit le FC Barcelone. Et ce chiffre, 436, c'est le nombre de fois où Marquinhos aura porté le maillot du PSG, un record. Duel au sommet à 21h avec un léger avantage pour Paris, pronostique notre consultant Jérôme Roten.
Je m'attends à un PSG dominateur qui est un pose sa loi, qui prend l'avantage devant un public qui va être tout à la cause du Paris Saint-Germain. Il faut se servir de l'atmosphère pour que le Paris Saint-Germain arrive à marcher sur Barcelone et à prendre un avantage. Je trouve que le PSG a vraiment progressé collectivement sur le mois de mars. Il faut le confirmer là, au plus haut niveau contre Barcelone.
PSG FC Barcelone ce soir, soirée exceptionnelle à vivre ensemble à partir de 18h jusqu'à 1h30 et match à vivre sur RMC Sport 1.
Et dès maintenant avec vous au 32-16, supporters parisiens, est-ce que comme Jérôme Bretagne, vous estimez que le PSG va, je cite, marcher sur le Barça ce soir? Vous nous le dites au 32-16.
5h03 sur RMC, la tempête Pierrick a désormais quitté le pays, mais dans la Manche, deux pêcheurs à pied sont morts, pris au piège des grandes marées dans les secteurs de Saint-Martin-de-Bréal et de Bricqueville-sur-Mer. Romain Poiseau.
Vers 17h30 hier, en plein épisode de grande marée, un groupe de pêcheurs à pied se retrouve en difficulté avec de l'eau jusqu'à la taille. Des témoins donnent l'alerte. Un Zodiac de l'école de voile arrive en premier au niveau des pêcheurs. Deux femmes de 73 ans sont ramenées sur la plage. L'une d'elles est inconsciente. Malgré l'intervention des secours, elle n'a pas pu être réanimée. L'autre est dans un état critique et transportée à l'hôpital. Plus au nord, un homme de 73 ans est retrouvé lui aussi inconscient par des ouvriers ostréicoles. Il est en arrêt cardio-respiratoire. Les équipes médicales le déclarent mort une fois ramené à terre. La préfecture maritime rappelle que les grandes marées se poursuivent jusqu'au 11 avril et qu'avant toute sortie sur le littoral, il faut consulter la météo ainsi que les coefficients de marée, mais surtout toujours avoir un moyen de communication pour pouvoir alerter les secours.
L'échec cette nuit des négociations sur l'emploi des seniors, les partenaires sociaux ne parviennent pas à un compromis pour favoriser l'embauche des plus de 57 ans. Faute d'accord, le gouvernement pourrait reprendre la main. Stanislas Guérini, lui, veut lever le tabou du licenciement dans la fonction publique. Il envisage de sanctionner davantage les insuffisances professionnelles des agents de l'État. Le ministre de la Transformation et de la Fonction publique le dit aux Parisiens aujourd'hui en France, alors qu'il vient tout juste de lancer les concertations avec les syndicats. Luc Faré est secrétaire général de l'UNSA Fonction publique, il tombe des nues, d'autant plus qu'il a rencontré le ministre et cette annonce n'a pas été évoquée.
À aucun moment nous n'avons évoqué la question du licenciement. Donc je trouve assez maladroit, pour ne pas dire plus, que le soir même, il s'exprime dans un journal pour dire qu'il veut lever le tabou du licenciement. Dans la fonction publique, tous les outils existent si un agent doit être licencié. Le gouvernement ne doit pas se focaliser sur des problèmes dans lesquels il y a des réponses et dans lesquels on connaît les réponses, mais plutôt trouver des solutions pour que la fonction publique s'améliore et que la rémunération des agents soit meilleure.
Le projet de loi sur la fin de vie arrive sur la table du gouvernement. Le texte prévoit des conditions strictes pour accompagner les malade, il faudra être majeur, capable d'exprimer sa volonté, ressentir les souffrances intolérables et impossibles à traiter. Projet de loi décevant pour les premiers concernés. Vincent Chevalier a recueilli le témoignage de l'une d'entre eux.
À 46 ans, Alexandra suit plusieurs traitements pour des problèmes de santé, des troubles psychologiques, un cancer du sein et un cancer des poumons, avec très peu d'espoir de guérison.
Quand j'ai demandé à l'oncologue, est-ce que ce sera efficace ? Elle m'a répondu, on ne sait pas du tout. La médecine me propose de me maintenir en vie. Quoi qu'il arrive.
Une vie de soins et de souffrances dont elle ne veut pas, elle a donc entamé les démarches pour une euthanasie dans un pays voisin.
J'ai eu toute l'énergie pour aller en Belgique pour le faire, parce que je sais très bien qu'en France, C'est pas possible.
Elle est notamment conseillée par l'association Le Choix, dont fait partie Denis. Cet habitant de Besançon a récemment accompagné Lydie, lourdement handicapée, en Belgique.
Elle disait, moi je veux pas vivre intellectuellement à 100% dans un corps mort à 100%.
De toute façon, son cas ne serait pas rentré dans le projet de loi.
Pour elle, c'était une totale injustice.
Incompréhensible aussi pour cet ancien médecin anesthésiste qui ne comprend pas pourquoi le pronostic vital doit être engagé à court ou moyen terme.
Comment un médecin peut arriver à prédire une durée de vie à moyen terme, c'est totalement aberrant, inimaginable.
Toujours marqué, le retraité prendra le temps avant d'accompagner un autre malade, mais il le fera, car il en est sûr, la loi ne répondra pas à la demande.
Et puis c'est la première fois qu'un État est condamné par la Cour européenne des droits de l'homme. On parle de la Suisse, décision inédite rendue à Strasbourg. En revanche, la Cour européenne des droits de l'homme a rejeté deux autres recours sur le même thème, l'un déposé par l'ex-maire de Grande-Synthe et l'autre par de jeunes Portugais. Et puis cette histoire en Dordogne, des parents qui ont ras-le-bol de voir des voitures foncer sur la départementale qui passe devant leur maison, ont tout simplement décidé d'installer un faux radar dans leur jardin. Ils ont transformé leur boîte aux lettres avec des stickers qu'ils ont achetés sur Internet. Stéphanie Gérard voit leur enfant de 11 ans partir tous les matins à pied au collège le long de cette route où des gens sont roulent jusqu'à 180-200 km/h, oui. Alors que c'est limité à 70.
Alors, la question. Est-ce que ça marche le radar ?
Alors, ça a l'air de marcher, mais surtout, est-ce que c'est légal ? Est-ce qu'on a le droit de faire ça ? Bah, apparemment, oui, tant que c'est sur sa propriété, que ça ne dépasse pas sur la voie publique. Voilà, le droit de coller des stickers sur sa boîte aux lettres.
Bah, surtout si ça calme un peu les chauffards, tant mieux. Non, mais très bonne idée. Si avec quelques bouts de scotch, ils assurent la sécurité routière, et en plus, personne ne perd de points là-dedans, ça incite juste les chauffards à lever le pied. Merci Thomas Schnell. Et tiens, Thomas, dans votre journal, vous nous parliez de la fonction publique. On entendait la colère des syndicats en découvrant les propos du ministre. Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, qui dit qu'il faut lever le tabou du licenciement des fonctionnaires. Et on voit, Estelle, que ça fait déjà beaucoup réagir sur Direct Studio, sur l'appli RMC. Hein.
Oui, on a Richard notamment qui nous dit on connaît tous quelqu'un qui est rentré, ou en tout cas qui essaye de rentrer dans la fonction publique pour les avantages, dont l'emploi sécurisé. Mais ce n'est plus adapté à notre société aujourd'hui, nous dit-il. Et puis on a Ali qui nous dit je ne suis pas contre sanctionner les fonctionnaires, mais par contre je veux bien que le ministre de la fonction publique se penche également sur les contrats de la fonction publique, puisque j'ai ma compagne qui travaille pour une mairie depuis 4 ans et elle en est déjà à son 8e contrat.
Oui, c'est ça, les contractuels aussi, oui, il y a de la précarité de l'emploi, mais alors le ministre dit on va aussi augmenter les rémunérations au mérite, etc. Il met aussi des carottes pour les fonctionnaires, mais il fait planer de cette sanction des licenciements plus simples dans la fonction publique, alors qu'aujourd'hui c'est extrêmement compliqué. Il pointe ce chiffre, à peine 13 licenciements en 2022 contre 1 million dans le secteur privé. Est-ce qu'il faut faciliter le licenciement des fonctionnaires, lever ce tabou de l'emploi à vie dans la fonction publique? On vous pose la question ce matin, donc sur Direct Studio, mais aussi au 32-16. Et puis tiens, je vois aussi que les supporters du PSG sont réveillés au 32-16. Je vois Stéphane qui nous appelle du Val-d'Oise. Salut Stéphane.
Bonjour.
Oui, bonjour Charles.
Salut Stéphane. Comment ça va ce matin, jour de match?
Bah oui, jour de match ce soir. On espère un gros match quand même.
On espère un gros match, mais on va se mouiller Stéphane là. Il est à peine 5h09, mais je veux un prono.
Allez, 3-1.
3-1 pour le PSG,
le même
qu'Estelle. Dis donc, vous êtes tous confiants sur un 3-1, non, mais pourquoi pas? Alors, je ne sais pas s'il faut s'en inquiéter ou pas. Est-ce qu'il faut être confiant quand on est supporter parisien et qu'on a des souvenirs mitigés quand on parle quart de finale, quand on parle Barça, Stéphane?
Mais bon, il faut toujours rêver.
Ah, Stéphane, ça...
Ouais, t'as coupé ?
Ouais, allez-y Stéphane, je vous écoute.
Oui, oui, bien sûr, mais il faut rester positif, hein, sinon on peut plus rien. Bien sûr, il y a l'histoire, hein, mais bon, l'histoire est ancienne. Voilà.
Ouais, on fait comme si ça s'était pas passé. On tourne la page, on regarde de l'avant, on est confiant. C'est pas un immense Barça en plus en face.
Non.
Mais je sais pas. Moi, je suis toujours attention à l'excès de confiance. Voilà. Je sens cette confiance planer. Tant mieux. Je m'en imprègne, mais je veux. Voilà. Je veux pas être trop euphorique de bon matin. On va suivre ça ce soir, Stéphane, sur RMC, évidemment. Et puis on va vous souhaiter une bonne journée. Non, c'est le début de la journée de boulot là, à 5h10 déjà.
Ouais, ça y est. Ouais, je vais partir bientôt sur Paris, donc. Pour éviter les bouchons, on va partir de bonne heure.
Ouais, ça c'est la bonne technique. Et en plus, il y a RMC pour vous accompagner.
Exactement.
On évite les bouchons ensemble, Stéphane. On va faire ça ce matin. On grimpe avec vous dans la voiture.
Bon match. Hein.
Bon match, évidemment. Bon courage pour le boulot, Stéphane. On est ensemble pour la journée de boulot, pour la matinée et pour le match ce soir. C'est évidemment sur RMC, le coup d'envoi à 21h, mais dès 18h, soirée spéciale. Et puis, dès 5h11, on joue.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et vous connaissez le principe, vous les lèvez tôt, vous pouvez remporter des cadeaux si vous répondez à notre question d'actu du jour.
Quel joueur va battre le record du nombre de matchs disputés sous le maillot du PSG ce soir?
Je donne des indices. Quel capitaine brésilien du PSG?
Vous en avez déjà deux.
Allez. Si vous avez la bonne réponse, si vous savez quel joueur du PSG ce soir va disputer son 436e match sous le maillot parisien, vous envoyez actu par SMS au 732-16. Et qu'est-ce qu'on gagne, Estelle?
Eh bien, on gagne un radio réveil dernier cri de la marque Muse. Et puis, si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à l'antenne dès 6h20.
Allez. Et le radio réveil, et puis c'est jour de match. Je vous rajoute la coque RMC pour fêter ça. Si vous avez la bonne réponse, si vous envoyez actu au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
Vous êtes bien réveillé sur RMC avec Muse. Toute une collection d'enceintes portables, de radios, casques, platine vinyle et plus encore à découvrir sur muse-europe.com.
RMC, police justice.
Et tous les matins, une histoire repérée, racontée par le service police-justice d'RMC. C'est Lucille Pascanet qui nous rejoint ce matin. Bonjour Lucille.
Bonjour Charles, bonjour Estelle, bonjour. Bonjour à tous.
Ce matin, Lucille, vous nous racontez comment la police a réussi à démanteler une vaste escroquerie au PMU. Un homme vient d'être arrêté après avoir créé près de 1000 comptes pour toucher le bonus à l'inscription.
Oui, c'est un homme qui pensait avoir trouvé la faille pour toucher le pactole. Cette faille, le bonus offert à l'ouverture d'un compte joueur sur le site PMU.fr. Un bonus proposé à l'origine pour attirer les nouveaux parieurs. Pourquoi ne pas le multiplier, se dit cet homme, en créant de faux comptes. Mais pour empêcher la fraude, il y a des pare-feux, bien sûr. Il faut attester de son identité, notamment. Pas de problème, il utilise de fausses identités ou bien des identités volées, étrangères et françaises. En tout, entre juillet 2022 et 2023, il va créer 974 comptes, soit presque 3 par jour pendant un an. Le préjudice pour PMU est estimé à 270 000 euros. C'est après une plainte déposée l'année dernière que l'enquête débute. Les policiers du service des courses et jeux comprennent que tous ces comptes sont liés au même portefeuille de joueurs. Alors, ils tirent chaque fil, ils remontent chaque identité pendant un an. Un travail titanesque, jusqu'à ce qu'ils finissent par identifier l'escroc. Un homme de 42 ans, domicilié dans les Hauts-de-France, jamais poursuivi pour escroquerie. Il a été interpellé lundi. En perquisition chez lui, les policiers ont retrouvé plusieurs cartes bancaires et surtout dans sa voiture, une clé USB qui contenait tous les documents d'identité qu'il avait utilisés. Sur des comptes bancaires, ils ont aussi saisi 52 000 euros. Hier, il a été déféré et mis en examen pour escroquerie et blanchiment.
Merci Lucille pour ce récit. Lucille Pascanet du service police-justice d'RMC.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Faut-il en finir avec le tabou du licenciement des fonctionnaires? Sujet explosif soulevé hier par Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique. Alors est-ce que c'est vraiment la solution pour motiver les agents? Est-ce qu'il faut en finir avec ce tabou? Est-ce qu'il faut en fait mettre fin à l'emploi à vie des fonctionnaires? C'est vous qui allez nous le dire, c'est à vous de nous dire tout de suite au 32-16 sur RMC. Et puis dans un instant, c'est RMC qui s'engage avec vous. Margot Boult vient en aide à cette maman de deux ados dont l'ex-conjoint refuse de verser la pension alimentaire.
RMC jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Il est 5h15. Excellent réveil à tous sur RMC.
Vous avez un problème? RMC a la solution. RMC s'engage avec vous.
Et c'est Margot Boult qui nous rejoint ce matin. Bonjour Margot.
Bonjour Charles, bonjour Estelle.
Alors Margot, ce matin, vous venez en aide à Aurélie, qui est maman de deux ados.
Et nous n'en dirons pas plus sur son identité, ni sur celle de ses enfants. D'ailleurs, ce n'est pas son vrai prénom et nous avons modifié sa voix.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce qu'Aurélie, elle est dans une situation très difficile vis-à-vis du père de ses enfants. Ils sont séparés, leurs ados passent un week-end sur deux et la moitié des vacances chez leur père. Un rythme de garde que son ancien conjoint conteste violemment.
Cette décision a été compliqué. S'en est suivi des menaces de la part du papa verbalement en présence de mon conjoint en me disant que s'il perdait ses enfants, il mettrait une balle dans la tête, que de toute façon, il me mettrait plus bas que terre et que j'étais incapable d'élever mes enfants et qu'ils finiraient à la DAS.
Depuis, le père refuse de verser les 400 euros de pension alimentaire mensuelle. Aurélie a porté plainte pour abandon de famille. C'est le nom du délit en cas de non-paiement de la pension alimentaire. Mais ça a été classé sans suite. Difficile financièrement alors pour elle d'élever ses deux enfants.
J'ai un fils qui grandit très très vite et que il lui faut une paire de chaussures tous les mois et demi. Des adolescents, ça mange beaucoup. C'est 6 euros le repas à la cantine par jour pour un enfant. Donc c'est 12 euros de cantine par jour.
En tout, le père des enfants d'Aurélie lui doit près de 7000 euros.
Ah oui, c'est pas négligeable, mais pourtant, moi je me souviens, Margot, on a beaucoup parlé de cette réforme qui dit que normalement, désormais, c'est la CAF, la Caisse d'allocation familiale, qui gère les problèmes de pension alimentaire.
C'est vrai, sauf que l'ex-conjoint d'Aurélie refuse de coopérer. Pire, il met systématiquement en début de mois son compte bancaire à zéro pour être sûr qu'on ne puisse pas le prélever. Et comme il est auto-entrepreneur, impossible de faire une saisie sur salaire.
Alors, on entend bien que c'est complètement coincé du côté de la CAF, impossible de le prélever. Vous avez quand même pu faire quelque chose pour aider Aurélie ?
Alors, j'ai échangé avec la CAF. Elle s'engage à relancer du côté du Trésor public pour que l'ex-conjoint soit bien prélevé. Nous allons évidemment continuer à suivre la situation d'Aurélie, mais son cas est loin d'être isolé. L'année dernière, la CAF a reçu 200 000 dossiers de pension alimentaire. Une sur six n'a jamais été versée à cause du blocage de l'ex-conjoint.
Ouais, et donc un dossier à suivre pour Aurélie et pour tous les autres. Et d'ailleurs, on rappelle l'adresse pour vous contacter, Margot et toute l'équipe d'RMC s'engage. C'est une adresse mail rmcavecvous@rmc.fr. Allez, on part tout de suite au 32-16.
RMC, à vous de nous dire.
À vous de nous dire s'il faut en finir avec l'emploi à vie des fonctionnaires. En tout cas, favoriser les licenciements dans la fonction publique, c'est l'idée choc avancée par Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique.
Une annonce qui forcément fait bondir l'opposition de gauche. Le député socialiste Arthur Delaporte dénonce un calcul électoral, une énième façon, selon lui, de grappiller des voix à droite.
Cette annonce est évidemment un signal envoyé à un électorat conservateur qui dit franchement, c'est fonctionnaires, c'est bon à rien. Et c'est ce que fait le gouvernement depuis le début. C'est que quand il y a un problème dans le service public, c'est pas le nombre d'agents, c'est les fonctionnaires eux-mêmes, c'est ces incapables.
À l'inverse, au sein de la majorité, le député Renaissance, Mathieu Lefèvre, soutient cette mesure. Pour lui, il ne doit y avoir aucun tabou.
Les fonctionnaires qui font preuve d'une insuffisance caractérisée jettent l'opprobre sur l'ensemble de leurs collègues. L'emploi à vie, la garantie de l'emploi à vie ne doit pas servir à protéger des fonctionnaires qui ne feraient pas leur travail.
Et c'est vous, maintenant, qu'allez nous dire ce matin au 32-16. Est-ce que ça vous semble être une bonne mesure, une bonne idée de s'attaquer, comme le dit Stanislas Guérini, au tabou du licenciement des fonctionnaires? Eh ben, on va accueillir Jacques tout de suite au 32-16 depuis les Pyrénées-Orientales. C'est ça? Bonjour, Jacques.
Bonjour.
Oui, bonjour, l'équipe.
Ah, bah, d'abord, Jacques, vous êtes dans les Pyrénées-Orientales. J'ai envie de savoir s'il pleut.
Non, ben non. Il est tombé quatre gouttes hier, et puis voilà, là, il a la tramontane s'est levée, donc du coup, c'est un coup pour rien que j'y dirais.
Oui, parce que non, mais Jacques, c'est très sérieux là. Vous avez eu quelques gouttes hier, des gouttes que vous espériez depuis des mois. Ça va pas suffire évidemment à soulager la sécheresse dans le département. Mais oui, on espère encore quelques gouttes là avant la fin du printemps.
Mais on espère surtout. Et puis ce qu'il y a, c'est que les quatre gouttes qui sont tombées hier, la tramontane les a séchées de suite. Et puis du coup, ça apporte rien quoi.
Oui, évidemment. Je voulais absolument avoir l'info parce que oui, j'ai entendu hier qu'il y avait quelques gouttes presque miraculeuses qui étaient tombées, mais vous nous dites qu'elles sont tombées pour rien, Jacques. Et vous nous appelez ce matin depuis les Pyrénées-Orientales où vous êtes fonctionnaire, c'est ça, Jacques ?
Voilà, c'est ça, ouais.
Alors,
ouais.
Qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Racontez-nous.
Alors, je suis chef de service du pôle parc auto dans une ville. Et donc, je m'occupe du parc auto, hein, en fait. Mmh. Et j'ai quatre agents qui sont avec moi. Et puis,
vous pouvez nous dire la ville ou ça vous, c'est comme vous voulez, Jacques, hein. Je veux pas vous mettre.
Voilà, je vais pas vous dire la ville. Allez,
c'est une
station balnéaire. C'est une station balnéaire. Voilà.
D'accord, une station balnéaire dont tout le monde connaît le nom. On va le dire comme ça. Connu.
Apparemment.
Ok. Non, mais comme ça, c'est fait. Ok, Jacques. Non, mais voilà. Comme ça, on a l'idée. Vous avez plusieurs agents à manager, un parc auto, etc. Voilà. Des fonctionnaires qui, on va le dire, Jacques, sont invirables. Quand on regarde les chiffres, il y a eu 13 licenciements dans toute la fonction publique en 2022 contre 1 million de licenciements dans le privé. C'est extrêmement compliqué aujourd'hui de licencier un agent, même s'il fait mal ou pas du tout son travail.
Alors, exactement. Alors, du coup, moi, pour vous dire, on a des gars qui viennent, ils ont cassé des rétros, ils cassent du matériel, ils arrivent, ils disent, ouais, ça s'est cassé, et puis ça monte, quoi. Ils font attention à rien, ils respectent rien, ils respectent pas de matériel, et on n'arrive pas à les sanctionner. Alors bon, nous, on a une prime de technicité, par exemple, dans notre ville. J'arrête pas de dire, moi, de sanctionner au niveau de cette prime. Alors, pas le salaire, puisqu'on peut pas sur le salaire, mais sur la prime. On pourrait, c'est une prime de technicité. On n'a pas entre les agents de la ville, les responsables, comme moi ou d'autres, on n'a pas les mêmes visions qu'un élu, par exemple. Parce qu'un élu, lui, il est là pour se faire élire, en fait. C'est, voilà, c'est le truc. Et donc, il y a des gens qui sont cachés, il y a des gens qui sont protégés. Et donc, c'est difficile de sanctionner.
Oui, il y a des planqués dans la fonction publique. Et vous nous dites, Jacques, moi, en tant que manager, j'ai pas les armes, j'ai pas le bâton, quoi. Vous avez pas de sanctions à disposition pour les motiver.
Exactement. Voilà.
Et donc, quand vous entendez le ministre dire, bah, potentiellement, un fonctionnaire pourrait être plus facilement licencié, vous y compris, du coup, Jacques, est-ce que ça vous choquerait?
Vous savez, dans la fonction publique, personne n'est blanc, hein. On a tous, à un moment donné, fait quelque chose ou qui est pas bien, ou, je veux dire, il y a personne qui est blanc, hein, dans la fonction publique.
Non, mais il s'agit pas de virer tout le monde, mais il dit aujourd'hui, pour insuffisance, c'est très compliqué de licencier quelqu'un.
Exactement.
Est-ce que ça vous choquerait aujourd'hui, Jacques, qu'on puisse vous licencier, non. Vos collègues puissent être licenciés?
Ah non, ça ne me choquerait pas. Hein. Je vous dis, ça permettrait aux gens de faire un peu plus attention, quoi, de dire, bon, attention, là, maintenant, je risque ma peau, quand même, dans la fonction publique. Eh bien, je vais m'investir un peu plus, je vais faire un peu plus attention, je vais me mettre un peu plus au service. Mais, je dirais quoi, hein.
Eh ben, on entend, Jacques, votre parole de fonctionnaire. Vous êtes plutôt favorable à l'idée de pouvoir faciliter les licenciements en cas de manquement, d'insuffisance. À l'inverse, on entend les syndicats qui représentent les fonctionnaires, qui représentent la fonction publique, qui sont vent debout depuis hier soir. Vous n'êtes pas forcément sur la même ligne que vos syndicats, Jacques.
Non, je ne suis pas sur la même ligne, sur les syndicats. Les syndicats aussi, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais bon, voilà.
Bah non, mais ça m'intéresse, Jacques, parce que vous savez quoi, dans une demi-heure, je vais recevoir Christian Grolier, c'est le secrétaire général de FO, la Fédération Générale des Fonctionnaires. Donc dites-moi, Jacques, qu'est-ce que vous voulez que je lui dise au patron de FO qui va nous dire, moi je suis sûrement vent debout, il va nous dire, moi je suis contre l'idée qu'on puisse se licencier.
Oui, mais les syndicats, ils protègent. Il y a des agents qui protègent. Je m'excuse, mais celui qui est bien avec un tel ou un tel, il est protégé, lui, que ça soit par le syndicat ou pas.
Oui.
Et donc c'est toujours pareil, quoi. Il y a des mecs qui sont là. Bon, il est bien avec le mec du syndicat. Et on va passer de la pommade. On va essayer de le cacher, de lui dire bon, reste tranquille un peu. Et voilà. Et le mec, il sera toujours là, lui. Hein.
En fait, si je vous entends, voilà, Jacques, voilà. Les syndicats veulent pas que ça bouge, tout simplement.
Ouais, voilà.
Non, mais c'est important. Je vais vous le dire, Jacques, vous me donnez des billes. Et je vous remercie, parce que comme ça, tout à l'heure, je pourrais interroger Christian Grolier. Je vous remercie beaucoup, Jacques, d'être venu témoigner ce matin en tant que fonctionnaire en direct sur RMC. Bah, je vous souhaite bon courage pour le boulot, parce que vous êtes levé tôt, là. Dis donc, ça commence à quelle heure?
Alors moi, je commence à 7h30, mais bon, je suis debout, je fais mon sport, là, le matin, je vais aller marcher, là, je suis... à fond la caisse.
Le café, le sport, marcher, tout ça, on le fait ensemble le matin avec RMC. Jacques, merci beaucoup d'être passé par le 32-16. Tiens, on vous envoie une coque pour smartphone aussi. Je fais passer le message à Quentin. Et vous faites comme Jacques ce matin. Vous venez témoigner, réagir, fonctionnaire ou pas d'ailleurs, favorable ou pas, à l'idée de pouvoir licencier plus facilement les fonctionnaires, lever ce tabou, comme le dit Stanislas Guérini. Vous nous le dites au 32-16.
RMC, Charles Matin.
Il est 5h25, votre journal de 5h30 approche sur RMC et à la une, vous allez entendre le récit de cette randonneuse qui a retrouvé le crâne du petit Émile la semaine dernière. Ne manquez pas ce récit, c'est à 5h30 dans quelques minutes. Et puis ensuite, toute la bande qui va nous rejoindre, évidemment, dans la story sport d'Alex Biggerstaff. On va parler du match événement ce soir, PSG-Barcelone. Rendez-vous décisif, tiens, pour deux hommes en particulier. Vous saurez tout dans la story sport. Mais tout de suite, c'est votre pouvoir d'achat. C'est la solution conso avec toi, Estelle.
Et on va faire le ménage ensemble, mais promis, sans se ruiner.
RMC, 5h-6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
Et à 5h27, comme chaque matin sur RMC, on s'occupe de votre pouvoir d'achat.
RMC,
la solution conso.
Estelle, ce matin, on va faire le ménage, le grand ménage de printemps, mais sans se ruiner.
Et oui, première solution, Charles, fabriquer soi-même ses propres produits ménagers. Par exemple, si vous voulez faire votre lessive vous-même, mélangez un peu d'eau, du savon de Marseille, du bicarbonate de soude, et le tout vous coûte 40 centimes au lieu de 7 euros en magasin.
Ah oui.
Bon, pour les dosages exacts, hein, vous trouverez plein de recettes en ligne qui les détaillent, mais je vous sens intéressé, Charles, si vous voulez,
ça m'intéresse, mais
un petit tuto.
Ouais, ça a l'air un peu technique quand même.
Hein. Oui, on note qu'en plus d'être bon pour le budget, c'est aussi bon pour la planète, et puis ça fait de la place, hein, dans les placards. Terminer toutes les bouteilles de produits vitres, dégraissants, nettoyants, plaques, etc. Donc pour des produits faits maison, vous n'avez besoin que de 5 ingrédients. Attention, prenez des notes, Charles. Le vinaigre blanc pour son côté détartrant, le savon de Marseille pour les lessives, les cristaux de soude pour faire disparaître les taches tenaces et le savon noir.
Et ben, je crois que j'ai déjà tout à la maison sauf les cristaux, mais oui, je pourrais peut-être me lancer. Bon, j'ai compris le principe, mais si j'ai pas envie de la faire moi-même ma lessive, j'ai pas le temps là de la fabriquer.
Eh bien, vous pouvez toujours vous tourner vers les traditionnelles promotions. Mais attention, attention, depuis le mois de mars, hein, dans les grandes surfaces, c'est terminé les moins 80%, c'est 34% maximum. Autre astuce, vous pouvez imprimer des bons de réduction. Il y a plusieurs sites sur Internet qui vendent des bons de réduction à environ 1 euro, 2 euros, mais parfois c'est largement moins cher que vos produits ménagers, donc ça peut valoir le coup. Et puis il y a aussi les magasins de déstockage comme Stockomanie, Noz ou encore Action qui reçoivent, eux, les articles invendus. En moyenne, les produits de ces anciennes sont 25 à 70% moins chers que des articles similaires vendus dans les anciennes comme Auchan, Intermarché ou encore Carrefour.
C'était la solution conso. Merci pour ces astuces et ces bons plans, Estelle.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
Et à bientôt 5h30, comme tous les matins, on sourit grâce au meilleur d'Arnaud Demanche.
Donc on parle d'interdire les écrans aux moins de 3 ans, d'interdire les écrans au collège. Je pense qu'il faut aller au bout, interdisons les écrans à tous les âges, parce que avant 3 ans, c'est néfaste pour le cerveau, mais après 70 ans aussi. Hein. Vous laissez un boomer 8 jours en roue libre sur Facebook. En début de semaine, il est astrophysicien, à la fin de l'expérience, il croit que la Terre est plate. Bref, les boomers, on supprime les écrans, les ados, c'est pareil. La dernière fois que j'ai ouvert TikTok, je vous jure, c'est vrai, la tendance santé, c'était de manger uniquement de la viande et du beurre. Ils mangeaient des plaques de beurre. Et après, on s'étonne que les urgences soient encombrées.
RMC, Charles Matin.
Excellent réveil à tous sur RMC. Toute l'info en direct pour bien se réveiller. C'est votre journal avec Thomas Schnell.
Bonjour à tous. Pourrons-nous partir en week-end durant les ponts du mois de mai? Réunion cruciale à la SNCF entre la direction et les syndicats pour éviter la grève. Réunion d'urgence hier soir au ministère de l'Intérieur. La menace terroriste plane au-dessus des quarts de finale de Ligue des Champions. Sécurité renforcée ce soir au Parc des Princes pour PSG Barcelone. Première étape du choc pour parvenir en demi-finale. On vit la rencontre ensemble sur RMC.
Se dirige-t-on vers une nouvelle grève à la SNCF au mois de mai?
La table ronde entre la direction et les syndicats ce mercredi est cruciale. Elle concerne la fin de carrière des cheminots qui ont déjà mis sur la table la menace d'une grève durant les week-ends prolongés. Mao Becker-Granier.
Oui, c'est tout l'enjeu de cette table ronde. Si la direction n'ouvre pas la porte à un accord avec les syndicats, alors Julien Trocaz, secrétaire fédéral Sud Rail, le promet, les cheminots sauront se faire entendre.
Donc on a 20 jours d'ici à une éventuelle mobilisation. Ce qui laisse le temps d'analyser les avancées de la direction, mais ce droit de grève, on l'assume et le préavis de grève, il existe.
Un préavis a été déposé par Sudrail pour tout le mois de mai. La CGT, syndicat majoritaire, affirme aussi de son côté avoir des moyens d'agir, mais laisse une chance aux négociations. Les syndicats veulent pour les salariés des départs en retraite plus tôt et dans de bonnes conditions. Sinon, ce sont les départs en week-end, notamment le 1er mai et le 8 mai, qui pourraient être très compliqués pour les usagers. En février, les cheminots s'étaient massivement mobilisés chez les contrôleurs. Ils étaient 3 sur 4 à avoir fait grève.
Le Sénat veut justement limiter le droit de grève dans les transports. Une proposition de loi défendue par la droite a été adoptée en première lecture. Elle vise les vacances scolaires, les jours fériés, les grands événements. Prochaine étape, l'examen à l'Assemblée nationale. La garantie d'un emploi à vie pour les fonctionnaires n'est plus un totem. Le ministre Stanislas Guérini veut lever le tabou des licenciements dans la fonction publique pour se séparer des agents qui ne font pas suffisamment leur travail. Une annonce qui fait bondir l'opposition alors que débutent les concertations sur la réforme de la fonction publique. Le député socialiste Arthur Delaporte dénonce un calcul électoral.
Cette annonce est évidemment un signal envoyé à un électorat conservateur qui dit franchement, c'est le fonctionnaire, c'est bon à rien. Et c'est ce que fait le gouvernement depuis le début. C'est que quand il y a un problème dans le service public, c'est pas le nombre d'agents, c'est les fonctionnaires eux-mêmes, c'est ces incapables. Et donc derrière cette annonce qui n'en est pas une puisque ça existe déjà, il y a surtout un objectif politique qui est de flatter ce qu'on pense être l'électorat plutôt que mener une bataille politique fondée sur la vérité, le principe de réalité. Aujourd'hui, les services publics sont en lambeaux non pas à cause des fonctionnaires, mais à cause du manque de moyens.
Alors, faut-il lever le tabou des emplois à vie dans la fonction publique? On attend vos appels ce matin au 32-16. C'est elle qui a retrouvé les ossements du petit Émile la semaine dernière. 9 mois après la disparition du garçon, elle avait ramené les ossements à la gendarmerie de Seine, proche du Auvernais. BFM TV l'a retrouvée. Elle a accepté de se confier par écrit. Cette habitante de la région habituée des randonnées explique être tombée sur le crâne de l'enfant alors qu'elle se promenait au Auvernais. Lucille Pascanet.
Oui, ce jour-là,
cette retraitée emprunte un chemin qu'elle n'a pas exploré depuis quelque temps. C'est là qu'elle trouve au milieu du sentier un crâne. Tout de suite, elle comprend qu'il s'agit de celui d'Émile et elle panique puisqu'elle n'a pas de téléphone. Elle ne peut pas appeler les gendarmes et elle a peur que si elle le laisse, le crâne ne soit pas là à son retour. Alors elle choisit de l'emporter et de le saisir à travers un sac plastique pour ne pas l'altérer, dit-elle. Avant de partir, elle repère la zone pour pouvoir l'indiquer précisément aux enquêteurs. Arrivée chez elle, elle les appelle et en quelques minutes, ils sont là. La sexagénaire sera entendue 9h en audition libre. À sa grande surprise, le lendemain, son logement sera perquisitionné, même si rien n'indique qu'elle soit suspecte, explique BFM TV. Aujourd'hui, cette femme très croyante dit avoir besoin de digérer. Elle n'est pas retournée se promener depuis sa découverte.
C'est la piste de l'homicide volontaire qui est privilégiée dans l'incendie de la rue de Charonne. Parmi les 3 personnes décédées, 2 portaient des plaies compatibles avec des tirs d'armes à feu. Julie Brault, vous êtes retournée sur place pour RMC et les habitants de l'immeuble tentent de comprendre ce qui a bien pu se passer.
Devant la porte de l'appartement ravagé par les flammes, Maria, une voisine de palier, n'en revient toujours pas. C'est ici que 2 hommes qui présentent des plaies par balles ont été retrouvés morts sous les décombres. Des blessures qui, selon elle, pourraient correspondre au coup de feu qu'elle a entendu juste avant l'incendie.
Bien avant, à 14h déjà, il y a eu une première explosion. On pensait que c'était ou des travaux ou un meuble qui tombait, mais on n'a jamais pu y croire ou imaginer que ce serait des balles, quoi. Et sinon, on aurait prévenu la police tout de suite.
Désormais, tous les habitants s'interrogent donc sur le locataire de cet appartement, un homme d'une 40aine d'années qui habite ici depuis 3 ans, se souvient Jocelyne.
Le monsieur, très gentil. Pas de bruit, pas d'aller et venu chez lui. Il n'y a jamais eu de bagarre, il n'y a jamais eu de... rien du tout. Mais j'ai même encore du mal à réaliser. Enfin, c'est là que je me dis, on connaît pas les gens.
Un 3e homme lui est mort après avoir sauté par la fenêtre pour échapper aux flammes. Aucune arme n'a été retrouvée dans l'appartement incendié. Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour homicide volontaire.
Nouvelle menace du groupe État islamique. Cette fois, le groupe terroriste appelle ses sympathisants à passer à l'acte. Pendant les quarts de finale de Ligue des Champions, hier soir en Angleterre, la rencontre Manchester City-Real Madrid s'est bien tenue. Ce soir, Paris reçoit le FC Barcelone et la sécurité sera considérablement renforcée autour du Parc des Princes, assure le ministre de l'Intérieur. Coup d'envoi à 21h au Parc des Princes et dès 18h sur RMC, soirée exceptionnelle jusqu'à 1h30 du matin. Les deux clubs ne s'étaient plus affrontés depuis un 8e de finale en mars 2021, remporté par Paris. Ce sera d'ailleurs la 436e apparition de Marquinhos, qui deviendra le joueur le plus capé de l'histoire du PSG, match de gala qui fait souvent ressurgir le fantôme de la remontada en 2017. Fabrice Hawkins, les Parisiens semblent calmes avant ce rendez-vous, pas question de subir la pression.
Ces dernières années, Paris a parfois perdu ses moyens en Ligue des Champions. Ce soir, les joueurs du PSG devront dominer leurs émotions. Pour cela, ils peuvent compter sur l'expérience de leur entraîneur, nous explique le défenseur Danilo Pereira.
Je sens que la pression, c'est un peu différent parce que le coach transmet de sérénité, de la calme. Je pense que c'est important pour des matchs comme ça. Qu'est-ce qu'on doit faire? D'être tranquille et penser seulement au jeu.
Luis Enrique est l'homme qui a humilié le PSG avec le Barça en 2017. L'Espagnol ne laisse rien au hasard. La tactique, l'approche psychologique, logique des matchs, tout est important pour le coach parisien.
Nous ne sentons pas de pression. La pression, ce n'est pas pour nous. Nous sommes très excités pour jouer et nous qualifier pour le prochain tour. Pendant la phase de groupe, j'ai vu beaucoup de responsabilités. Maintenant, le sentiment, c'est l'enthousiasme de l'équipe, des joueurs. On est très ambitieux. On a envie de jouer parce qu'on va affronter Barcelone et qu'on veut les battre.
Pour atteindre cet objectif et se donner les chances de se qualifier la semaine prochaine en Catalogne, Paris pourra compter sur Kylian Mbappé qui veut faire un grand match avant son départ en fin de saison.
Et puis un mot des courses, Thomas, le Quintet Plus qui se déroule sur l'hippodrome de Lyon-la-Soie aujourd'hui, 13h55.
Oui, le favori de la Dream Team RMC, le numéro 4, Ginko du Roussoir, l'outsider numéro 9, Happy Danica, le 4 et le 9, les courses est à vivre en direct sur RMC Découverte.
Et puis Thomas, vous venez de nous parler de ce match, événement, cette soirée spéciale sur RMC, ce PSG-Barça à 21h, et ben vous avez fait réagir Béatrice qui nous appelle de Chaumont. Bonjour Béatrice.
Bonjour. Allô, allô.
Salut Béatrice, comment ça va ce matin?
Oh, ça va, ça va.
Bah, c'est jour de match, Béatrice.
Eh ouais, allez Marquinhos.
Je connais Béatrice, je sais qu'elle nous appelle souvent pour parler, pas du PSG, pas de Paris, voilà. Non, de Marquinhos spécifiquement, ça c'est votre chouchou Béatrice.
Ah oui, oui, oui.
Ah bah, et ce soir en plus, c'est une soirée spéciale.
On se refait pas,
On se refait pas, non mais c'est vrai, ça fait des années, je sais que Béatrice est fan de Marquinhos, qu'elle suit les matchs du PSG pour voir son chouchou. Puis c'est l'homme de la soirée, c'est son 436e match.
Tout à fait.
Mais oui, ça va être incroyable ce soir. Bon, et Béatrice, le prono?
Ah, ça va être dur.
Mais il faut se mouiller, Béatrice.
Ça va être dur, combien? Moi je dirais 2-1.
2-1, est-ce qu'il y a un des deux buts marqués par Marquinhos?
J'espère, je pense pas, mais j'espère.
Ce serait la soirée parfaite, si j'ai bien compris, pour Béatrice ce soir. Et alors, est-ce que vous avez déjà tranché le programme ce soir, Béatrice? Le match, c'est à la télé, c'est à la radio sur RMC?
Non, à la radio, parce que j'ai pas...
Eh ben voilà, parfait.
Je paye pas pour...
Eh ben RMC, c'est gratuit. RMC, c'est gratuit, vous pourrez suivre le match, évidemment.
Non, et puis j'aime bien la radio, c'est bien.
Mais oui, c'est même génial, ça commence dès 18h en plus, c'est beaucoup plus long qu'un simple match à la télé.
Jusqu'à
1h30 du matin, voilà, Béatrice. Oh,
mais j'écoute fidèle. Tout,
moi. J'entends tout. Ça, et vous êtes avec nous dès 5h39, ça me fait très plaisir de vous avoir un jour de match, Béatrice. Je sens que vous allez porter chance au PSG ce soir. Merci d'être passée ce matin au 32-16, Béatrice.
Allez, bon match ce soir.
Mais oui, bon match à tous, merci Béatrice, bon match à vous. Ce match, on va en reparler évidemment dans la Story Sport dans quelques minutes sur RMC. Et puis tiens, on va tout de suite jouer.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et tous les matins, on vous pose une question d'actu. Bah tiens, Béatrice, si vous m'entendez, faut tenter votre chance tout de suite parce que la question d'actu vous concerne.
Quel joueur va battre le record du nombre de matchs disputés sous le maillot du PSG ce soir?
Ah, bon bah Béatrice a la bonne réponse, on vient de parler de son chouchou. Mais si vous aussi vous avez la bonne réponse, vous pouvez tenter votre chance puisque c'est un tirage au sort. Il faut envoyer actu par SMS au 732-16.
Et si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à l'antenne dès 6h20 pour gagner un radio réveil dernier cri de la marque Muse.
Et on y ajoutera la coque pour smartphone RMC. Bref, les cadeaux à gagner, c'est tout de suite si vous envoyez actu par SMS 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. Les indiscrets RMC.
Et chaque matin, RMC vous emmène dans les coulisses de l'actu. On retrouve Romain Cluzel. Bonjour Romain.
Bonjour Charles, bonjour Estelle.
Bonjour.
On se souvient, Romain, de l'idée du gouvernement d'instaurer un label fait maison sur les menus des restaurants. L'idée avait finalement été abandonnée il y a quelques semaines par le gouvernement. Mais vous nous révélez qu'en coulisses, le député Richard Ramos continue le combat pour le bien manger.
Exactement, le texte vient d'être déposé à l'Assemblée avec la même proposition, rendre obligatoire la mention « non fait maison » lorsqu'un plat n'est pas préparé dans les cuisines du restaurant. Dans cette nouvelle version, les plateformes de commande en ligne seraient aussi concernées. C'est une forme de revanche pour Richard Ramos. Après le retrait d'un premier texte sur le sujet il y a 3 semaines, il avait alors dénoncé une victoire des industriels. Alors le député veut remettre le sujet sur la table, malgré l'opposition des syndicats de la restauration. Cette mention « non fait maison » est trop négative et stigmatisante à leur goût. L'UMI, par exemple, souhaite plutôt rendre obligatoire le logo fait maison créé il y a une dizaine d'années. Un responsable du syndicat va même plus loin. Parfois, mieux vaut un bon plat industriel qu'un mauvais plat fait maison. Plusieurs membres du syndicat vont justement rencontrer Richard Ramos aujourd'hui pour défendre leur position. Le député se dit ouvert à la discussion, mais il prévient, la mention non fait maison, c'est une question de transparence envers les consommateurs. Il peut compter sur le soutien de certains restaurateurs, mais aussi de plusieurs collègues députés à l'Assemblée venus de différents groupes. L'objectif, faire de cette proposition de loi un texte transpartisan pour être étudié le plus rapidement possible. Et en plus des restaurants, certains parlementaires souhaitent étendre cette mention non fait maison au menu des cantines scolaires.
Ah oui, ce serait très important aussi pour savoir ce que mangent nos enfants tous les jours à la cantine. Indiscret signé Romain Cluzel du service politique d'RMC.
RMC, Charles Matin.
Et ça y est, toute la bande est là. Oh bah une bande de gala pour ce jour de match, n'est-ce pas ? Alex Biggerstaff, salut Alex.
Salut tout le monde, on va parler de PSG-Barcelone évidemment et de deux hommes qui auront particulièrement leur rôle à jouer ce soir.
Est-ce qu'il y aura le chouchou de Béatrice qui était avec nous à l'instant au 32?
C'est fort probable.
On va parler donc de Marquinhos notamment dans un instant dans la Story Sport. Anthony Morel est là aussi pour C'est Déjà Demain.
On décolle à bord d'un des taxis volants qui vont être expérimentés pour la première fois à l'occasion des Jeux Olympiques de Paris. Je vais vous expliquer à quoi ça ressemble et à quoi ça sert.
On aura aussi le bonus d'Estelle.
Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Les choristes, ouais.
Eh bien, je vous en parle dans quelques instants.
Et puis, on va accueillir Jonathan au 32-16. Jonathan, tiens, qui est favorable au licenciement dans la fonction publique, pouvoir plus facilement licencier les fonctionnaires. C'est ce que demande le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini. Ça fait débat et Jonathan témoigne tout de suite sur RMC.
RMC, Charles Matin.
Charles Magnin.
6h moins le quart, vous êtes bien sur RMC, c'est l'heure de votre les viennoiseries pour accompagner votre café. Alors j'ai le croissant Anthony Morel, j'ai le pain au chocolat Alex Biggerstaff et j'ai, tu choisis Estelle, pain au raisin, chausson aux pommes.
Chausson aux pommes.
Allez, le chausson aux pommes Estelle, et ben, il reste le pain au raisin, ce sera Jonathan au 32-16. Salut Jonathan.
Bonjour, merci pour le pain au raisin.
Moi j'adore ça, donc vous êtes mon chouchou ce matin Jonathan au 32-16, routier en Vendée, c'est ça hein, déjà au volant à cette
heure-ci? Ouais, c'est ça, ouais. Ah bah toujours à 5h.
à 5h la prise de poste et puis le 32-16 quand vous voulez. Il faut bien vous garer sur le bas-côté, évidemment. Je vous fais confiance, Jonathan, professionnel de la route. Et ce qui vous a fait réagir ce matin, eh ben, c'est cette proposition, cette idée du ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, qui dit il faut lever le tabou des licenciements dans la fonction publique, pouvoir plus facilement virer des fonctionnaires. Il met ce chiffre en avant. Il y a eu à peine 13 licenciements dans la fonction publique en 2022 contre 1 million dans le privé. C'est quasi impossible aujourd'hui de virer un fonctionnaire qui ne ferait pas ou qui ferait très mal son travail. Est-ce qu'il faut faciliter ces licenciements, Jonathan ?
Bien sûr qu'il faut les virer. Il faut virer ceux qui ne branlent rien. Mais comme au gouvernement, Bruno Le Maire, ça fait 7 ans qu'il est au gouvernement, il devrait être viré pour les résultats qu'il fait. Il y en a plein qui doivent durer.
Oui, alors, bon, techniquement, au gouvernement, on est plus ou moins, comment dire ça, en CDD. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas un emploi à vie, en théorie, hein, c'est comme député, etc.
Non, mais les résultats sont pas bons.
C'est vrai, quand les résultats sont pas bons, il faut des sanctions, en tout cas. Tout à l'heure, vous avez entendu Jacques, qui nous disait, il est fonctionnaire, il manage une équipe de plusieurs personnes.
Il a complètement raison.
Et il nous disait, moi, j'ai très peu de leviers, en fait. Quand ils font pas bien leur boulot, je peux pas trop les sanctionner, encore moins les virer. Il faut nous donner ces leviers d'action parce que, alors, le ministre dit, il faut aussi, de l'autre côté, pouvoir mieux rémunérer ceux qui bossent bien, plus de rémunération au mérite, etc. Bref, se calquer un peu sur les critères du privé. Mais alors, du coup, c'est la fin de la fonction publique, quelque part, Jonathan. C'est la fin de, comment dire, j'imagine qu'on a tous grandi avec cette idée que devenir fonctionnaire, c'est presque trouver un emploi à vie, en fait.
Et c'est bien le problème. C'est qu'il y en a certains, c'est pas heureusement, c'est pas tout le monde, il y en a certains qui ne branlent rien et qui vont toucher les salaires à vie en ne faisant rien.
Ouais, donc pour vous, il n'y a pas de
ça
débat.
Ça coûte trop cher. Moi, si je ne suis pas bon, mon patron, il n'y a pas de question. Au revoir.
Oui, après, d'autres diront, mais dans la fonction publique, on est moins payé, moins bien payé à poste égal que dans le privé.
Ouais, d'accord. Par contre, derrière, ils ont quand même vachement d'avantages. Hein.
Oui, mais notamment cet emploi à vie. Donc si on enlève les avantages et qu'on est moins bien payé, ça va être compliqué de recruter. C'est ce que disent les syndicats. Ils disent aujourd'hui, on n'arrive plus à recruter dans la fonction publique. Si en plus on enlève ce qu'on peut considérer comme des avantages, des sécurités autour de l'emploi, ça va être encore plus compliqué de recruter.
Mais c'est pas très grave, parce que vu le boulot qu'ils font, certains, c'est pas très grave s'ils sont pas remplacés. Hein.
Ouais, je vous sens clairement remonté, pas forcément fan des fonctionnaires.
Moi, par exemple, quand je dois prendre des rendez-vous, le samedi, ils travaillent pas, hein, alors que moi, je travaille toute la semaine.
Vous en avez vous en connaissez dans votre famille, dans vos proches, des agents de la fonction publique, Jonathan ?
Oui.
Et ils sont si bien lotis que ça, à vos yeux ?
Ah, ils partent en voyage régulièrement, ouais. Moi, je pars pas.
Ouais, non, mais j'entends bien, Jonathan, que pour vous, il y a certains avantages auxquels il faut renoncer désormais dans la fonction publique. Vous soutenez, en tout cas, l'idée du gouvernement,
j'ai bien dit, c'est pas tout le monde, il y en a qui bossent, il y en a une partie qui bosse pas.
Oui, en tout cas, il faut pouvoir, sanctionner ceux qui ne font pas ou font très mal leur travail. Vous le dites comme ça, Jonathan. On a bien entendu vos termes, c'est très clair, c'est très cash, c'est la liberté. Le matin sur RMC, ça va forcément faire réagir. Tiens, vous êtes fonctionnaire, j'ai envie de dire, venez vous défendre. N'hésitez pas à venir répondre à Jonathan. Le 32-16 est ouvert. En attendant, Jonathan, tiens, vous êtes en Vendée, mais j'ai envie de vous demander, j'imagine si vous écoutez RMC et que vous suivez le foot, est-ce que quand on est Vendéen, ce soir, on est derrière le PSG ?
Alors moi, je suis après tous les clubs français qui sont en Europe, sauf Marseille.
Ah d'accord. Alors là, je lance un deuxième appel. Supporter marseillais, vous pouvez venir aussi répondre.
Si vous êtes marseillais et fonctionnaire, vraiment, appelez-nous.
Oui, voilà. Si vous êtes le fonctionnaire marseillais, vous êtes le meilleur ami de Jonathan ce matin.
Je vais faire plein de copains.
J'entends bien. Bon, en attendant, vous serez derrière le PSG ce soir pour ce grand rendez-vous. Antenne spéciale sur RMC de 18h à 1h30 du matin avec la libre antenne autour de PSG-Barcelone. Quart de finale de la Ligue des Champions. Et Alex Biggerstaff, deux hommes vont jouer gros ce soir.
Eh oui, d'abord Luis Enrique, ancien entraîneur du Barça entre 2014 et 2017. Il avait remporté la Ligue des Champions avec le club catalan en 2015. Mais cette saison à Paris, il a endossé plus qu'un rôle d'entraîneur. Il a servi de bouclier face aux critiques à tout un groupe et a imposé son style, à en croire le défenseur Danilo.
La pression, c'est un peu différent parce que le coach aussi nous transmet de sérénité. On doit se focaliser dans les matchs et pas parler.
Et oui, avec Luis Enrique, l'état d'esprit a changé. Ces rotations, décortiquées chaque semaine par la presse, ont surtout eu pour effet d'unir et d'impliquer chaque joueur de l'effectif. Il a aussi amené de l'exigence et de la fermeté, notamment avec les nombreux épisodes autour de Kylian Mbappé. Ce soir, face à son ancien club, il devra confirmer tout ce travail.
Y compris sur le plan tactique, en faisant les bons choix. Il y a d'ailleurs des interrogations, notamment en défense pour ce soir.
Et oui, parce que l'international marocain Achraf Hakimi est suspendu. Alors qui pour le remplacer à droite de la défense? Les regards se portent sur notre deuxième homme qui joue gros ce soir, Marquinhos. Souvenez-vous, en 2017, il est présent à Barcelone lors de la remontada. En 2019, il est présent lors de la désillusion à domicile contre les Poupons de Manchester United. Et surtout en 2022, il est capitaine lors de l'effondrement parisien face au Real à Madrid. Pour Jérôme Roten, Marquinhos doit être maître de son destin ce soir.
À lui de passer le cap et de vraiment de céder de cette jeunesse qui n'a pas connu, les jeunes autour qui n'ont pas connu les désillusions pour reprendre le dessus. Et lui aussi, c'est un vrai tournant ce match-là. Il n'y aura pas d'excuse, quoi. C'est le capitaine du bateau. C'est à lui d'assumer pour renverser Barcelone.
Oui, il y a beaucoup de poids sur les épaules. Il pourra surtout assumer du haut de son 436e match disputé ce soir sous le maillot parisien à seulement 29 ans. Record du nombre d'apparitions dans l'histoire du PSG devant Jean-Marc Pilorgé, autre défenseur de l'époque. Oui. L'écrivain Albert Camus disait « Un destin n'est pas une punition. Marquinhos doit sortir du rôle de la victime parce qu'il n'est jamais trop tard pour être enfin du bon côté de l'histoire. »
Alex Biggerstaff qui cite Albert Camus de bon matin, bah ça c'est excellent présage pour le PSG ce soir. Ah ouais, j'y crois plus que jamais. Même si, non mais c'est vrai Alex, faut le dire, Marquinhos, bah oui, c'est capitaine, emblématique, le joueur le plus capé à partir de ce soir de l'histoire du PSG. Et pourtant, quand on est supporter parisien,
bah, c'est terrible.
Il incarne pas la sérénité.
Alors, on l'associe à ses nombreuses déconvenues, malheureusement. Exactement. Alors que c'est un homme de mission qui a aidé le club depuis qu'il est arrivé tout jeune à 18 ans.
Mais t'as raison, je souligne ta conclusion. Il n'est jamais trop tard pour être enfin du bon côté de l'histoire. Et donc, c'est peut-être ce soir qu'il va effacer cette image.
On lui souhaite.
De capitaine, un peu faiblard les soirs de grands matchs. Et c'est peut-être ce soir, enfin, qu'il va se révéler être l'assurance tout risque des grands soirs. Jonathan, tiens, toujours avec toi au 32-16. Le prono, Jonathan, pour ce soir.
Oh, moi, je dirais qu'ils vont faire du Paris Saint-Germain à 3-2.
3-2 pour le PSG. Ouais, mais donc ça veut dire qu'on va trembler avant le retour. Ouais, s'il y a 3-2.
Ils vont jouer la première mi-temps, puis deuxième mi-temps, ils vont se faire bouillonner.
Ah ouais, carrément. Voilà. Au moins, c'est cash avec Jonathan. Et puis, alors, bon, Anthony, je sais que tu connais rien au foot, mais je te permets aussi de te demander ton prono à toi.
Oh, bah, allez, 1-0 PSG.
Voilà. Ouais. On se mouille pas. On la joue simple. On vérifiera ça demain. On va débriefer ensemble. En attendant, toi aussi, tu nous parles quelque part de sport, Anthony. On va se projeter vers les JO.
Ouais.
Puisqu'il y aura des taxis volants dans le ciel de Paris pour les Jeux Olympiques et ça sera une première mondiale.
Absolument. Alors, ça fait longtemps qu'on en parle, mais cette fois-ci, c'est sûr. On va voir des taxis volants dans le ciel parisien. On sera la première ville au monde à expérimenter cette technologie. On appelle ça les Volocity. Alors, taxi volant, imaginez pas non plus la voiture dans le cinquième élément qui vole. Hein. C'est pas exactement ça. En fait, c'est des gros drones ou des tout petits hélicoptères électriques. Alors, vous allez me dire, on a déjà des hélicoptères. Là, c'est beaucoup plus petit, beaucoup moins encombrant. Ça fait beaucoup moins de bruit aussi, comme c'est électrique. Et c'est aussi moins polluant. C'est l'avantage de ces appareils. Donc, en gros, typiquement, pour relier un aéroport à un centre-ville, ça va être intéressant. Vous entrez, l'appareil décolle. Il fonce à plus de 100 km/h. Et il va ensuite atterrir sur ce qu'on appelle des vertiports qui seront installés en centre-ville. Donc, pendant les Jeux Olympiques, ils relieront notamment l'héliport d'Issy-les-Moulineaux. Donc c'est juste à côté de Paris, à une barge installée sur la Seine, et il y en aura une autre entre l'aéroport du Bourget et celui de Roissy par exemple. C'est un véhicule de rêve quand même.
Mais ça veut dire que n'importe qui pourra commander, je sais pas, il y aura une appli pour commander un hélico?
Alors à terme ce sera ça, pendant les JO ce sera un peu plus compliqué, il y a eu tout un débat et malheureusement il y aura seulement quelques invités triés sur le volet qui auront le droit de les utiliser. Donc ce sera
Anthony Morel, ouais. Alex Biggerstaff et basta.
Je suis même pas sûr qu'on soit assez VIP, tu vois, là ce sera plutôt je pense des sportifs par exemple pour les JO, enfin en tout cas ce sera vraiment des invités un peu VIP à l'origine, et sûrement à terme ce sera un service commercial, mais il y a eu tout un débat, il y a eu des élus notamment de la mairie de Paris qui se sont insurgés contre ce service, je les cite, qui cite un gadget totalement inutile et hyper polluant pour quelques ultra privilégiés pressés. Donc comme ça tout est dit, on parle quand même d'un prix du billet à 110 €, ce qui effectivement est un petit peu cher, mais moi je pense qu'il faut se projeter, c'est-à-dire il faut voir ça comme une vitrine technologique pour montrer le potentiel de ce nouveau type de transport qui pourrait à terme contribuer à décongestionner les centres-villes avec des modèles plus gros qui accueilleront plusieurs passagers, ce qui ferait baisser les prix, ou encore du transport de marchandises, et puis le potentiel énorme aussi dans le domaine du transport sanitaire, avec notamment des tests avec les hôpitaux de Paris d'ici la fin de l'année, notamment pour transporter des greffes en urgence. Ah, ce serait extraordinaire.
Donc
ça,
c'est
pour
pas
le coup.
Si gadget. Voilà, évidemment. Il y a la vitrine des JO, voilà. Mais derrière, des applications très concrètes avec ces taxis volants qu'on verra donc cet été au-dessus de Paris. Et puis alors là, on était dans le futur avec toi, Anthony. C'est un peu retour vers le futur, le bonus d'Estelle ce matin, puisque les choristes sont de retour aujourd'hui au cinéma.
Et oui, 20 ans
Après le film culte aux 8 millions d'entrées, ressort donc aujourd'hui partout en France dans une version 4K remasterisée pour le plus grand plaisir donc de Gérard Jugnot qui incarne le surveillant Clément Mathieu.
Les gens qui l'ont vu il y a 20 ans, et là 20 ans après c'est les enfants de ceux qui l'ont aimé quand ils étaient mômes, quoi. Moi ça a changé ma vie, c'est sûr. Il y a eu un tel retentissement à l'étranger aussi. Et surtout il dure, quoi. Le fait de le situer dans les années 50 fait que il se démode pas, quoi, puisqu'il était déjà démodé quand il est sorti. Et puis il y a la magie de la musique, la magie de la voix de Jean-Baptiste.
Jean-Baptiste Monnier, hein, c'est l'autre star du film. Effectivement, il incarne le petit Morange dont la voix a marqué les générations, notamment grâce à un remix techno qui fait des centaines de millions de vues sur YouTube et TikTok. Attention, ça va vous réveiller.
Non mais j'adore. C'est un budget allemand qui a fait ça il y a à peu près
les choristes à Ibiza.
Ouais, on en est à plusieurs centaines de millions, 200 millions d'écoutes, je crois, sur Spotify, sur YouTube, ça cartonne aussi. Bref, ça fait le tour du monde.
Mais je vous rassure, ce sera bien la version classique de la chanson que vous retrouverez au cinéma.
Ça sera bien le petit Morange. Ce sera la version originale dans le film qui ressort en 4K aujourd'hui, le retour des choristes 20 ans après au cinéma. On va souhaiter bonne route d'abord à Jonathan. Question la route.
Merci.
Salut Jonathan, merci d'être passé avec nous ce matin au 32-16, débattre autour de cette question du licenciement des fonctionnaires. On va en reparler juste après 6h. On va accueillir justement, je vais recevoir l'un des syndicats représentatifs, le deuxième syndicat représentatif de la fonction publique, Force Ouvrière, qui réagit aux propos de Stanislas Guérini ce matin, le ministre de la fonction publique, qui veut lever le tabou du licenciement. Que répondent les syndicats? Sont-ils prêts à faire grève? La réponse juste après le journal de 6h. Dans un instant, c'est sur RMC et RMC Story.
RMC, Charles Matin.
Toute l'info en direct, votre journal présenté par Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Sécurité renforcée ce soir à Paris pour le quart de finale de Ligue des Champions entre le PSG et le Barça, avec des menaces d'attaque visant le Parc des Princes et les autres stades qui accueillent des quarts de finale de cette compétition européenne. L'information de la nuit, c'est l'échec des négociations sur l'emploi des seniors entre syndicats et patronat. On va tout vous expliquer. Et deux morts dans la Manche, lourd bilan des grandes marées hier dans la Manche.
Et puis le gouvernement qui veut en finir avec le tabou du licenciement des fonctionnaires. De quoi mettre les syndicats dans la rue? Eh bien, je reçois le représentant du syndicat AFO juste après ce journal dans ce studio. Réunion sur la sécurité hier soir à Paris avant le match de Ligue des Champions ce soir au Parc des Princes.
Oui, les autorités sont sur le qui-vive avec les menaces d'attentats visant les stades de foot qui accueillent les quarts de finale de Ligue des Champions cette semaine. Des menaces qui émanent de l'organisation État islamique au Khorasan. C'est la branche qui est soupçonnée d'être derrière l'attentat de Moscou le mois dernier. Voilà pourquoi Maria Azé pour RMC, voilà pourquoi le ministre Gérald Darmanin a annoncé un dispositif de sécurité plus conséquent que d'habitude ce soir à Paris.
Oui, et le ministre de l'Intérieur ne veut prendre aucun risque. Des unités de forces mobiles seront déployées pour venir en renfort des 4 unités initialement prévues pour cette rencontre qui, jusqu'à lundi soir, n'inquiétait pas spécialement les autorités. Mais face aux menaces de l'État islamique, Gérald Darmanin souhaite rassurer un peu plus de 100 jours des Jeux Olympiques à Paris. Des drones et des policiers de la BRI seront aussi déployés pour sécuriser cette rencontre de Ligue des Champions. De nombreuses patrouilles seront visibles autour du Parc des Princes ce soir avec des fouilles plus poussées. Depuis hier, c'est aussi un contact permanent avec les autres pays visés par ces menaces sur les matchs de football. La France échange ses informations avec les autres services de renseignement en Espagne et en Angleterre.
Oui, le dispositif de sécurité est même qualifié d'extraordinaire en Espagne, à Madrid, où l'Atlético jouera ce soir contre Dortmund en même temps que Paris, 21h. Aucun incident recensé hier soir pour les deux premiers quarts de finale de Ligue des Champions. D'ailleurs, sur le terrain, on vous avait promis une soirée de gala. Eh ben, vous n'avez pas menti. Trois partout et des renversements de situation sans arrêt entre le Real Madrid et Manchester City hier soir, et deux partout entre Arsenal et le Bayern Munich. C'est bien parti, donc, ces quarts de finale. Et ce soir, c'est Paris qui va retrouver le Barça. 3 ans que les deux clubs ne se sont pas affrontés. Et c'est l'ancien Barcelonais, Luis Enrique, vous le savez, qui sera sur le banc parisien pour cette affiche.
C'est évidemment un match très spécial pour moi, avec beaucoup d'émotions. Mais ce n'est pas moi qui joue, je vais seulement diriger mon équipe. Et j'ai un groupe bien préparé, concentré, ambitieux, et qui devra montrer un grand visage face à un rival de haut niveau.
Ne manquez pas la soirée spéciale PSG-Barça sur RMC en direct du Parc des Princes dès 18h en fin de journée. La libre antenne jusqu'à 1h30 du matin. Vous n'allez rien manquer, le match sur RMC à la radio et sur RMC Sport 1 à la télé. Il est 6h03 ce matin sur RMC et tout ça pour ça. Patronat et syndicats ne sont pas parvenus à trouver un accord dans leurs négociations sur l'emploi des seniors avec en ligne de mire la réforme de l'assurance chômage. Ça fait plus de 3 mois qu'ils discutaient. Ils s'étaient vus pendant 14 heures lundi, puis toute la journée d'hier jusqu'à 3 heures du matin. Et alors, Sébastien Krebs, vous avez suivi ces négociations pour RMC. Ça n'a pas suffi. À l'arrivée, ils se sont quittés cette nuit en faisant chou blanc.
Oui, constat d'échec. Les syndicats estiment que les propositions du patronat ne créent aucun droit nouveau pour les salariés, alors que l'objectif était d'obtenir des contreparties à la réforme des retraites, des aménagements pour les fins de carrière. Les syndicats demandaient notamment l'ouverture d'un droit à la retraite progressive dès 60 ans. Ils ne l'ont pas obtenu. Blocage aussi sur les reconversions et sur le fameux CDI senior, ce contrat spécifique pour les plus de 60 ans et qui autorise les entreprises à le rompre dès l'âge de la retraite. Pas d'accord, ça veut dire que le gouvernement peut reprendre la main sur cette question de l'emploi des seniors et pourra choisir de reprendre les mesures qu'il souhaite. Mais les syndicats, de toute façon, vont devoir se revoir très vite parce qu'une nouvelle négociation va s'enclencher dans les prochaines semaines, cette fois sur une large réforme de l'assurance chômage. Le gouvernement souhaite durcir les conditions d'indemnisation et voudrait aboutir à l'automne.
Réunion de la dernière chance aujourd'hui à la SNCF entre direction et syndicats qui menacent de faire grève pour les ponts du mois de mai. C'est la CGT qui appelle au mouvement. On attend de savoir ce que va faire Sudrail avec comme sujet de discorde cette fois la question des fins de carrière. Je vous le disais, cette triste série de noyades hier dans la Manche avec les grandes marées. 2 personnes sont mortes, Romain Poiseau, en fin de journée. Hier, des pêcheurs à pied surpris par la marée.
Vers 17h30 hier, en plein épisode de grande marée, un groupe de pêcheurs à pied se retrouve en difficulté avec de l'eau jusqu'à la taille. Des témoins donnent l'alerte. Un Zodiac de l'école de voile arrive en premier au niveau des pêcheurs. 2 femmes de 73 ans sont ramenées sur la plage. L'une d'elles est inconsciente. Malgré l'intervention des secours, elle n'a pas pu être réanimée. L'autre est dans un état critique et transportée à l'hôpital. Plus au nord, un homme de 73 ans est retrouvé lui aussi inconscient par des ouvriers ostréicoles. Il est en arrêt cardio-respiratoire. Les équipes médicales le déclarent mort une fois ramené à terre. La préfecture maritime rappelle que les grandes marées se poursuivent jusqu'au 11 avril et qu'avant toute sortie sur le littoral, il faut consulter la météo ainsi que les coefficients de marée, mais surtout toujours avoir un moyen de communication pour pouvoir alerter les secours.
Jonathan Daval, de retour au tribunal à Besançon aujourd'hui, face à sa belle famille, 2 ans après sa condamnation à 25 ans de prison pour le meurtre de son épouse Alexia, c'était en 2017. Jonathan Daval sera jugé cette fois pour dénonciation calomnieuse. Lui qui avait dénoncé un complot familial à l'époque contre Alexia, Marion Dubreuil.
Jonathan Daval avait accusé son beau-frère d'avoir étranglé Alexia, une version relayée dans la presse jusqu'à ses aveux en décembre 2018, insupportable pour maître Jean-Hubert Portejoie qui représente la famille d'Alexia.
Le droit de mentir, ce n'est pas le droit d'accuser quelqu'un d'autre à sa place. Grégory Gay, sa vie a changé. Le regard des gens qui changent. Et si c'était lui ?
Le parquet de Besançon avait classé une première plainte pour dénonciation calomnieuse, d'où cette citation directe. Et le tribunal pourrait avoir une autre lecture. Du côté de la défense, maître Ornelas Patafora rappelle que Jonathan Daval a menti dans le cadre de l'instruction pour se défendre.
Quand il met en cause sa belle famille, et effectivement de manière tout à fait maladroite, il tente de se défendre, il souhaite pouvoir assister à cette audience, même s'il y a une appréhension de se retrouver face à sa belle-famille, parce que la dernière fois, c'était lors de son procès d'assises.
La famille d'Alexia avait alors obtenu 165 000 euros de dommages et intérêts. Elle demande aujourd'hui 60 000 euros en réparation du préjudice moral.
L'humanité a perdu sa boussole morale. Voilà la déclaration de la vice-secrétaire générale des Nations Unies à propos de Gaza. Joe Biden a encore critiqué cette nuit Benjamin Netanyahou pendant que les frappes israéliennes se poursuivait dans la bande de Gaza. C'est un jugement historique en Suisse, avec certainement des conséquences chez nous en France. Nos voisins suisses condamnés pour inaction climatique par la Cour européenne des droits de l'homme. Première fois qu'un État est condamné par une juridiction internationale, saisie par 2500 femmes âgées pour les conséquences des vagues de chaleur. Martin Caloré.
À l'issue du jugement, Anne Maurer, porte-parole des aînés pour le climat qui avait saisi la Cour européenne des droits de l'homme, ne cache pas sa joie.
L'arrêt aujourd'hui est un arrêt historique et la Cour nous a reconnu nos droits fondamentaux à un climat sain. Maintenant, nous allons rester très attentives à ce que la Suisse mette en œuvre la décision.
Décision qui a des effets concrets, explique Matthias Schlegel, porte-parole de Greenpeace Suisse.
La Suisse, maintenant, elle doit revoir sa politique climatique, se fixer des objectifs qui sont cohérents avec l'objectif
objectif de l'accord de Paris, c'est-à-dire de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré au niveau global. Et là, on a un verdict qui peut faire jurisprudence non seulement en Suisse, mais aussi dans tous les 46 pays du Conseil de l'Europe.
Et notamment en France. Jérémy Suissa est le délégué général de l'ONG Notre Affaire à Tous.
On va pouvoir utiliser ces décisions dans d'autres contentieux, devant d'autres tribunaux. Ces décisions-là, elles jouent un rôle dans la prise de conscience collective. C'est plus seulement les militants qui expliquent que les États ne font pas leur part du travail sur la lutte contre le réchauffement climatique. Ce sont donc des plus hautes institutions européennes aujourd'hui.
En Suisse, cette condamnation fait polémique. Le principal parti politique a demandé à ce que le pays quitte le Conseil de l'Europe.
Et puis on reparle de la qualité de l'eau dans la Seine après la nouvelle alerte d'une ONG à moins de 3 mois des Jeux Olympiques. La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra, se dit confiante pour qu'on parvienne à baisser la pollution de 75% d'ici les Jeux.
Ah. Il faut dire qu'ils sont nombreux là, à avoir promis de se baigner. Emmanuel Macron, Anne Hidalgo, Amélie Oudéa-Castéra. Est-ce que Manu Le Chypre se baignera dans la Seine? C'est un autre suspense. Bonjour Manu.
Ça va?
Oui, tu t'attendais pas à cette question au réveil. Hein.
Et alors la réponse?
Et alors la réponse?
Non mais attendez, mais moi déjà en dessous de 23 degrés dans l'eau, ça n'est pas négociable. Allez vous faire voir, je ne suis pas un pingouin. Hein, donc comme ça m'étonnerait qu'on soit à 23, 24 dans la Seine, la question ne se pose même pas.
Pas encore, mais je reviendrai à la charge, c'est promis.
Sinon, je peux commencer à prendre les médicaments maintenant, si vous voulez.
Oui, il faut peut-être un traitement préventif.
Les infections.
À suivre donc, Manu dans la Seine, c'est mon projet 2024, c'est mon ambition. En attendant, il est 6h09, on remercie Quentin, on se retrouve à 7h.
À tout à l'heure, oui.
Pour un prochain journal, et tout de suite, on joue.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé?
Et oui, tous les matins sur RMC, on vous offre des beaux cadeaux si vous êtes bien réveillés, surtout si vous répondez à cette question d'actu.
Quel joueur va battre le record du nombre de matchs disputés sous le maillot du PSG ce soir?
Ah oui, il y a des indices hein, ce matin. Si vous nous regardez, on a vu sa photo à la télé. Quel capitaine brésilien du PSG. Voilà, va battre un record ce soir. Si vous avez la bonne réponse, vous envoyez actu par SMS au 732-16.
Si vous êtes tiré au sort, vous serez avec nous à l'antenne dès 6h20 pour gagner un radio réveil dernier cri de la marque Muse.
Et on y ajoutera la coque pour smartphone RMC, mais oui, c'est jour de match, évidemment, c'est la fête sur RMC. On vous offre vos cadeaux, vous êtes tirés au sort si vous envoyez Actu par SMS au 732-16.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi.
À suivre dans Charles Matin sur RMC.
Fonctionnaire à vie, est-ce que c'est fini? En tout cas, le ministre de la fonction publique, Stanislas Guérini, veut, je cite, « lever le tabou du licenciement ». Et mon invité ce matin est un homme en colère. Bonjour Christian Grolier.
Bonjour.
Vous êtes le secrétaire général Force Ouvrière de la Fédération Générale des Fonctionnaires. Comment vous avez réagi en découvrant ces propos du ministre ce matin dans la presse? Vous nous le dites dans un instant sur RMC.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
6h13, bon réveil à tous sur RMC.
L'invité de Charles Matin.
Mon invité ce matin, c'est Christian Grolier. Rebonjour, secrétaire général FO pour la fonction publique, deuxième syndicat chez les fonctionnaires. Christian Grolier, vous avez lu la presse ce matin?
Oui, malheureusement, j'ai lu la presse ce matin. Oui.
Ouais, alors pour ceux qui n'auraient pas encore ouvert le Parisien, je vais leur citer le titre. Guérini s'attaque au tabou du licenciement des fonctionnaires. Vous étiez au courant?
Pas du tout.
Pourtant, il y avait une réunion hier. Oui, le ministère, oui. Le Stanislas Guérini, le ministre de la fonction publique, lançait sa réforme avec une première réunion. Il appelait tous les syndicats à venir discuter. Vous y étiez?
Non, nous avions boycotté la réunion, même si bien sûr nous avions les documents de travail qui ont été présentés. Le matin, c'était une réunion sur l'attractivité de l'emploi public. Oui. Donc c'est peut-être pour ça qu'il n'a pas osé parler de licenciement.
Oui, parce qu'ensuite, c'est donc auprès de la presse, auprès de confrères du Parisien, qu'il annonce qu'il voudrait faciliter le licenciement des fonctionnaires. Pour lui, c'est l'une des pistes, en tout cas, à mettre en avant dans cette réforme. Alors, il dit il y aura des leviers aussi pour motiver les fonctionnaires, du mérite, etc. Mais il veut lever ce tabou. Il dit aujourd'hui, c'est trop compliqué, quasi impossible de licencier un fonctionnaire. Il y a eu à peine 13 licenciements en 2022. C'est le chiffre qu'il met en avant, contre 1 million dans le secteur privé. Est-ce que pour vous, c'est une ligne rouge si on s'attaque au motif de licenciement d'un fonctionnaire?
Mais évidemment, c'est d'ailleurs le grand paradoxe de cette journée d'hier. On passe une matinée à nous expliquer qu'on n'arrive pas à recruter des fonctionnaires, qu'on manque d'attractivité. Il faut dire que la moitié des fonctionnaires démarrent leur salaire au SMIC. Mmh. Donc effectivement, il n'y a rien d'attractif. On essaie de trouver des mesures, même si on peut avoir des points de désaccord. Et l'après-midi, on nous dit « je voudrais virer davantage de fonctionnaires ».
Et pour les syndicats,
c'est hyper attractif, quoi.
Je vais répéter le terme. C'est ligne rouge, ça veut dire quoi? Ça veut dire préavis? Ça veut dire grève potentielle?
Alors, nous, à Force Ouvrière, on a déjà un préavis qui court jusqu'au 8 septembre et qui entoure notamment les Jeux Olympiques. Là, on va se réunir en début de semaine prochaine. Et effectivement, on va voir ce qu'on peut faire. On sort d'un mouvement social le 19 mars de toutes les fédérations de fonctionnaires par rapport au salaire. Et là, aujourd'hui, notamment un projet de loi qui est hyper agressif, et maintenant le ministre qui veut licencier. Ça ne veut absolument rien dire.
Au sein de cette, vous dites, une réunion, c'est-à-dire une intersyndicale avec les autres syndicats de la fonction publique, au sein de cette réunion, est-ce que Force Ouvrière va plaider pour une grève ?
Alors, plaider pour une grève, oui. En tout cas, établir le rapport de force, évidemment, on n'a pas le choix.
Donc il n'y a plus qu'à choisir la date, en fait.
Oui, d'abord, il faut s'entendre, il faut choisir la date, et ça se prépare. Une grève, ça ne se fait pas comme ça, en appuyant sur un bouton. Donc, il faut organiser des assemblées générales, des réunions d'information.
Mais vous avez cité vous-même la période des Jeux Olympiques. Ça pourrait tomber à ce moment-là. Vous pourriez dire, on a déjà un préavis, il y aura grève pendant les JO dans la fonction publique.
C'est effectivement, en tout cas, une possibilité, et en tout cas, un moyen de pression beaucoup plus fort dans cette période, évidemment, pour faire aboutir nos revendications.
Parce que pour vous, c'est impossible d'attaquer ces négociations en parlant licenciement. Pourtant, depuis ce matin, on a ouvert le débat au 32-16, y compris aux fonctionnaires qui sont nombreux à témoigner. J'aimerais qu'on accueille Serge qui nous appelle du Rhône. Bonjour Serge.
Bonjour.
Serge, vous êtes fonctionnaire, c'est ça, hein ?
Affirmatif.
Affirmatif. Est-ce que je peux vous demander dans quelle fonction, dans quel corps ?
Je suis dans la fonction publique territoriale.
D'accord, bon, on ne va pas en dire plus, mais Serge, vous entendez depuis ce matin ce débat qu'on a au 32-16. Certains sont pour, d'autres s'y opposent. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant que fonctionnaire, quand le ministre dit « Oui, il faut des rémunérations au mérite, etc., mais il faut aussi qu'on puisse plus facilement licencier les agents. » Qu'est-ce que vous en pensez, Serge ?
Mais moi, je suis favorable au licenciement des agents, aussi bien favorable à pouvoir valoriser les agents qui sont méritants. Et aujourd'hui, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, en tant que manager, on n'a aucun levier.
Ah, parce que vous êtes vous-même manager au sein de la fonction publique. C'est ce qu'on a entendu aussi ce matin, on a eu le témoignage de Jacques qui nous disait « Moi, j'ai plusieurs agents à gérer, c'est très compliqué de les sanctionner et alors impossible de les licencier. »
C'est ça. Et c'est pour les licenciés, c'est très compliqué. Et en revanche, pour nous mettre des bâtons dans les roues, pour pouvoir manager des équipes, c'est très facile. Donc, si aujourd'hui on a un agent qui n'a pas envie de travailler, pour le mettre au boulot, c'est plus que difficile. Hormis mettre des sanctions. Avant que ça aboutisse, il faut un certain temps. Donc, il y a une lourdeur administrative qui est là, mais dans les deux sens. On est incapable aujourd'hui de récompenser un agent qui mérite.
Alors ça, vous avez raison, Serge. C'est justement l'autre aspect de la réforme. Et là, je reviens vers vous, Christian Grelier. Bon, on entend que sur le terrain, pour Serge, c'est un peu moins tabou, cette question des sanctions et des licenciements. Pour vous, c'est une ligne rouge. Mais le ministre met aussi en avant, il y a le bâton du licenciement, mais il y a aussi des carottes. Il dit, on va aussi mieux rémunérer au mérite. Est-ce que ça, c'est une bonne piste ?
D'abord, des carottes, je dirais des rondelles de carottes. Puisque quand on a le ministre de l'économie qui annonce 30 milliards de réduction de la dépense publique en deux ans, je serais curieux de savoir avec quelle carotte on va pouvoir alimenter les fonctionnaires. Là aussi, c'est un faux problème. D'abord, nous avons plus de la moitié de la fonction publique qui démarre au SMIC. Certains qui restent au SMIC quasiment tout le long de leur carrière, notamment les agents les moins bien payés en catégorie C. D'abord, revalorisons les salaires, commençons par ça.
Oui, mais tous les salaires, même ceux qui ne travaillent pas bien ou qui travaillent...
D'abord, qu'est-ce que ça veut dire quelqu'un qui ne travaille pas bien ?
Ah ça, il y a des managers, il y a des évaluations. Voilà. Dans le privé, tout le monde sait qui travaille bien ou pas bien.
Oui, donc vous avez ça veut dire quoi quand le ministre dit ça ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, il se dit que des agents ne travaillent pas bien et ça veut dire que les managers, pour reprendre ce terme à la mode, ne font pas leur boulot. Nous, on considère que c'est un petit peu réducteur de dire ça. Il y a aujourd'hui des procédures, alors je ne dis pas que c'est facile quand j'écoute votre interlocuteur, mais nous, on ne va pas taper sur les cadres qui, soi-disant, ne managent pas. Parce que si un agent ne fait rien et qu'on le laisse ne rien faire, il y a quand même un problème de procédure.
Oui, mais ce que dit Serge, aujourd'hui, c'est sclérosé dans les deux sens. Il ne peut pas vraiment sanctionner ceux qui bossent mal et il ne peut pas vraiment bien récompenser ceux qui font très bien leur boulot.
Alors bon, je pense qu'il y a de contre-exemples qu'on pourrait trouver dans d'autres services où je pense qu'on arrive à mieux faire les procédures disciplinaires. Je rappelle que les procédures disciplinaires, ce n'est pas que le licenciement. Il y a des sanctions dans quatre groupes. Ça va de l'avertissement à l'interruption de travail, etc., la mutation disciplinaire. Donc il n'y a pas que 13 licenciements par an. Il y a aussi beaucoup de sanctions disciplinaires au-delà de ça. Et après, le mérite, c'est quoi le problème ? C'est qu'aujourd'hui, vous avez une enveloppe budgétaire quand vous êtes chef de service. Et cette enveloppe, elle correspond au taux 1 du nombre d'effectifs. C'est-à-dire que si vous voulez gratifier un agent un peu plus que les autres, il faut de fait en baisser un autre.
Oui.
C'est-à-dire qu'on déshabille Pierre pour habiller Paul. Faisons du vrai management, mais dans ces cas-là, ça veut dire que l'enveloppe budgétaire n'est pas fermée et qu'on n'est pas obligé de baisser quelqu'un pour augmenter quelqu'un d'autre.
Si tout le monde bosse bien, que tout le monde ait une prime.
Et surtout, on est
plaidé pour ça. Mais alors, justement, est-ce que vous irez le faire devant le ministre de la fonction publique ? Vous nous dites, je ne suis pas allé à la réunion hier avec Stanislas Guérini. Entre-temps, il parle du licenciement des fonctionnaires dans la presse. Est-ce que vous irez ? Est-ce qu'il y a un prochain rendez-vous programmé au ministère ?
Alors déjà, on apprend toujours par la presse ce que fait le ministre, hein, puisque ça fait un an qu'il nous parle du projet de loi. Et hier, il nous a présenté le diaporama qu'il avait envoyé la veille par mail. Ça veut dire qu'on n'a toujours pas le projet de loi sur la table. Et après, il utilise la presse pour parler du licenciement.
Mais est-ce que vous irez ? Est-ce que vous vous rendrez au prochain rendez-vous ?
Nous, on a demandé une audience au Premier ministre, qui est le vrai patron des fonctionnaires. Mm-hmm. Et ce n'est pas ni M. Guérini, ni M. Le Maire. Le vrai patron de tous les fonctionnaires, c'est le Premier ministre. On a une audience programmée à la fin du mois. On ira d'abord à cette audience et en fonction de ça, on verra si on arrive à faire une véritable négociation, donc non pas des annonces.
Avec Gabriel Attal, fin du mois, mais d'ici là, vous aurez peut-être annoncé les dates de grève ?
Je pense que oui, si ça continue dans cette dynamique, il y a de fortes chances.
Christian Grelier, secrétaire général FO de la Fédération Générale des Fonctionnaires, deuxième syndicat de la fonction publique, merci d'être venu réagir aux propos de Stanislas Guérini ce matin dans la presse. Et surtout, vous nous annoncez donc que ça se précise, on va le dire comme ça, pour cette grève pendant les JO dans la fonction publique, après les annonces ce matin du ministre. Il est 6h21 merci. Sur RMC, merci.
RMC, Charles Matin.
Dans un instant, c'est Manu Conso sur RMC et on va chez le glacier.
Mais oui, jamais autant de Français n'ont mangé de glace qu'en 2023.
RMC, jusqu'à 6h30. Charles Matin.
Charles Magnin.
6h24 sur RMC. Alors Manu, le chiffre est-il plus vanille, chocolat ou pistache ?
RMC, Manu Conso.
Oui, on parle glace ce matin, Manu, dans Manu Conso, car les Français n'ont pas lésiné sur le budget glace l'an dernier.
Non, et moi non plus, c'est mon dessert préféré, les glaces.
Ah, mais quel parfum.
Ah, oui. Ça dit tout.
Ok, au moins
tout, mais j'ai la règle d'or, c'est que je ne mélange jamais le chocolat avec les fruits.
Très bien.
Soit c'est fruits, ouais. Soit c'est chocolat, vanille, caramel, etc. Okay. Voilà. Bon, bref. Les Français n'ont jamais mangé autant de glace, enfin, n'ont jamais dépensé autant pour les glaces qu'en 2023. Le chiffre d'affaires du secteur a bondi de plus de 7%. C'est ce que nous dit l'association des entreprises de glace avec des chiffres calculés par Nielsen IQ. Au total, on a 24,4 millions de foyers qui ont acheté les glaces l'an dernier, dont 600 000 nouveaux acheteurs. C'est quand même 84% des familles françaises qui achètent des glaces. Alors c'est beaucoup, même si la France est un petit consommateur de glace. Hein. On n'est que 16e en Europe, mais c'est un marché très dynamique. Il y a plein d'innovations et ce sont les formats nomades.
Hein, oui, mais attention, parce que oui, on se jette sur les glaces, mais les prix ont fortement augmenté. Hein.
Oui, alors effectivement, côté prix, c'est plutôt la surchauffe. Hein, 15% de hausse pour le prix des glaces, ce qui fait qu'en volume, effectivement, la consommation a un peu baissé. Alors logiquement, vu cette hausse des prix, ce sont les marques distributeurs qui enregistrent la plus forte progression à cause du prix, mais aussi, figurez-vous, parce que les marques distributeurs ont multiplié les références, alors que les autres circuits de distribution ont eu plutôt tendance à rationaliser, l'objectif étant évidemment de répondre aux attentes des consommateurs, quelle que soit la saison. Le mot d'ordre, c'est désaisonnaliser la consommation de glace, en manger toute l'année.
L'appel de Manu Le Chypre, la glace tous les jours sur RMC.
Ah, votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, partenaire premium de Paris 2024.
RMC, Charles Matin, êtes-vous bien réveillé ?
Et à 6h25, c'est un double bonjour. Bonjour à Bernard, d'abord, qui a été tiré au sort. Bonjour Bernard.
Bonjour. Bonjour Charles.
Et bonjour à Pauline dans ce studio.
Salut, salut Charles et bonjour Bernard.
Alors d'abord on va jouer avec Bernard. Bernard, la question d'actu du jour.
Quel joueur va battre le record du nombre de matchs disputés sous le maillot du PSG ce soir ?
Alors Bernard.
C'est Marquinhos.
C'est gagné, bravo. C'est Marquinhos, 436e match ce soir lors de PSG-Barça. Et Bernard, bon, la deuxième question d'abord, le prono.
Le prono, je pense qu'ils vont gagner 2-0.
Ah, Paris, et on... voilà, ça me va parfaitement comme prono, donc c'est double cadeau.
Et oui, un radio réveil de la marque Muse.
S'il avait dit un partout, il n'avait pas le droit à la coque.
Non. Il y a le radio réveil, la coque pour smartphone. On vous envoie tout ça, c'est promis. Bernard, dans le Vaucluse, et on va vivre ce match et même la soirée spéciale dès 18h tous ensemble sur RMC. Mais dès 6h26, on est tous ensemble pour Apolline Matin.
Oui, Apolline Matin qui démarre dans un instant. Non, j'étais encore sur les glaces. Parce que j'avoue que par exemple, moi, hier soir, petit coup de fatigue, petit moment de déprime, une journée très pluvieuse.
Ça sent le chocolat.
Ça sent la glace à la vanille avec le chocolat fondu dessus.
Ah oui,
automatique.
Bravo,
et là, tout de suite, ça va mieux. Non seulement je fais monter la consommation de glace, je sens que le pays en a besoin, et mon moral remonte immédiatement. Je suis très chocolat fondu sur la glace à la vanille.
Formidable.
Je vais vais défendre la team.
C'était mon petit kiff hier soir.
Tant que c'est pas sur de la glace à la fraise, ça va.
C'était mon kiff hier soir. Mais il est 6h27. Et on est ensemble donc jusqu'à 9h avec à la une cette question. Faut-il mettre fin à la garantie de l'emploi pour les fonctionnaires? L'emploi à vie des fonctionnaires, c'est un tabou que le gouvernement veut lever. Voilà ce que le ministre de la fonction publique a dit hier. Il veut mettre les pieds dans le plat. Des licenciements, s'il y en a, mais il y en a trop peu, dit-il, et garder les fonctionnaires à vie coûte trop cher. Voilà la réflexion donc du ministre. Vous êtes peut-être fonctionnaire, venez nous dire ce matin au 32-16 si la garantie de l'emploi est une sécurité nécessaire ou alors si au contraire vous estimez qu'on peut lever en effet ce tabou. Vous en parliez tout à l'heure, vous allez nous raconter Charles avec Serge qui disait au fond que c'était peut-être pas plus mal de lever ce tabou. Également à la une ce matin, la menace terroriste qui pèse sur le match de la Ligue des Champions entre Paris et Barcelone ce soir au Parc des Princes. La sécurité a été poussée au maximum. Qui nous menace? Quelle sécurité ce soir? Toutes les réponses ce matin. Nous sommes donc le mercredi 10 avril. Et à Pauline Matin, c'est parti.